Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Prague dans cette émission préparée pour vous par la rédaction française. Culture en deux parties ce week-end avec dans un premier temps de la bande dessinée et puis ensuite l'actualité cinéma avec le Festival du cinéma d'Europe centrale qui s'est ouvert ce jeudi en France. Comme tous les 15 jours, la rubrique Le Tchèque du bout de la langue de Guillaume Narguet et enfin la rubrique littéraire de Václav Richter consacrée cette semaine à l'hommage rendu à Prague à l'écrivain Józef Szpolacki. Bonne écoute et bon week-end. Il y a une vraie actualité Jaroslav Rudiš en France à l'heure actuelle, toute proportion gardée évidemment, car la culture tchèque est souvent peu bruyante dans l'hexagone. Mais quand même, récemment, le film Alois Nebel, tiré de la BD éponyme dont Jaroslav Rudiš est le scénariste, est sorti sur les écrans français, glanant d'excellentes critiques dans de nombreux journaux. Et puis, hasard du calendrier, une nouvelle maison d'édition vient de sortir son livre « La fin des punks à Helsinki ». Mercredi dernier, une rencontre avec l'auteur était organisée à Paris autour du livre et du film. Louis Dumoulin, éditeur chez Books Edition, a évoqué au micro d'Anna Kubishta le livre de Jaroslav Rudiš. On les écoute.
Culture sans frontières.
Troisième roman, si je ne me trompe pas, de son auteur Jaroslav Rudiš, qui est un jeune auteur tchèque, traduit notamment en allemand et en polonais, traduit avec succès en Allemagne. Et Jaroslav Rudiš, c'est un jeune trentenaire au parcours atypique, puisque c'est l'ancien représentant de commerce des bières Pilsner. Il a été DJ, manager d'un groupe de punk. Et ce punk, il en est question dans le livre, dans la fin des punks à Helsinki. Le titre ne ment pas. Et le livre raconte en fait l'histoire de deux destins parallèles. Le premier, c'est celui de Ole, qui est l'ancienne star d'un groupe de punk est-allemand, qui en 1990 met brutalement fin à sa carrière alors qu'il allait arriver avec son groupe à Helsinki parce qu'il se rend compte que son manager est un agent de la Stasi. Donc le groupe se dissout, lui il rentre dans sa petite ville d'Allemagne de l'Est, il sera jamais allé à Helsinki, mais il ouvre un bar qu'il appelle Helsinki,
en
et
souvenir.
Dans lequel se retrouvent tous les marginaux qui ont du mal à se faire un peu à la nouvelle époque, à la République tchèque qui a intégré, qui s'est mis au diapason du capitalisme.
C'est un roman qui a deux histoires en parallèle. Donc il y a ce personnage Olé et puis alors il y a une jeune fille qui s'appelle Nancy et qui est une jeune punkette.
Exactement, c'est-à-dire qu'on suit Olé et en parallèle on suit l'histoire de Nancy. Olé il nous parle d'aujourd'hui en fait, c'est-à-dire son histoire est racontée dans les années 2000 dans son bar un peu cradingue. Et en parallèle, on suit l'histoire de Nancy qui elle nous parle directement puisque c'est des extraits de son journal intime qui sont reproduits dans le livre et c'est des extraits d'un journal intime qu'elle a écrit dans les années 80, donc derrière le rideau de fer, dans une petite ville de République tchèque. Nancy, elle tousse un peu trop à cause du nuage de Tchernobyl qu'elle a pas épargné. Elle écoute des cassettes de contrebande des Sex Pistols passés par la Pologne, qui inquiète beaucoup sa professeure communiste, qui a peur qu'elle attrape des maladies vénériennes avec ses pistolets sexuels. Nancy, sa rébellion fait écho à celle de Olé, qui lui est revenu de ses illusions, alors qu'elle est vraiment dans une phase active de rébellion adolescente. Et puis elle fait d'autant plus écho à la rébellion de Olé que Olé a une fille qu'il n'a pas vue depuis une quinzaine d'années, qui est à peu près l'âge de Nancy, et qui fait irruption à la fin du livre dans le récit, puisque on lit, écrit par la plume de cette fille, un manifeste, le manifeste des gens beaux, qui est une sorte de pamphlet assez violent contre la société de consommation, où on découvre qu'aujourd'hui la rébellion est moins joyeuse puisque cette jeune fille commence par des petits trucs d'agit-prop en mettant des bacs à fleurs dans des espaces publics, sur des parkings, etc. Et puis finit par verser dans une forme de terrorisme. Mais donc c'est un peu la rébellion à toutes les époques, la fin des punks à Helsinki.
Alors justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce livre et qui fait que justement Books Edition, qui en fait a une activité d'édition récente, hein, si je ne me trompe pas, a choisi de publier ce livre?
Bah, très récente cette activité d'édition, puisque c'est avec un recueil de nouvelles islandais qu'on publie en même temps notre premier livre. Et ce qui nous a séduit, parce que le livre nous a vraiment séduit, c'est-à-dire qu'on aurait pu publier, on avait un peu le choix du roi quand on s'est penché sur la veille qu'on avait exercée sur l'édition internationale les trois premières années d'existence du magazine, parce que c'est comme ça qu'on a procédé. En fait, on a regardé tous les livres dont on avait parlé, toutes les fictions dont on avait parlé, d'auteurs étrangers encore inédits en France lors de nos trois premières années. Il y avait on avait le choix entre peut-être 150 ouvrages et on en a choisi 5, dont La fin des punks à Helsinki pour notre catalogue 2012. Et ce qui nous séduit dans La fin des punks, c'est que c'est un roman avec plein de facettes. C'est-à-dire que c'est les deux héros sont deux Allemands des Sudètes, donc de cette province à cheval sur la République tchèque, l'Allemagne et une partie de la Pologne, me semble-t-il, qui a donné prétexte à l'invasion allemande de la République tchèque. Donc Nancy n'a pas le droit de dire à l'école qu'elle parle allemand, parce que les Allemands, c'est les nazis, et qu'évidemment, dans la Tchéquie communiste, on n'a pas le droit de dire qu'on parle allemand avec sa grand-mère. En même temps, il y a plein de petites histoires, c'est plein d'histoires enchâssées. Olé, il découvre un mur creux au fond de son bar, donc il le casse, et derrière ce mur se trouve une salle de cinéma avec un projecteur et des bandes de films muets des années 20 qui sont des films pornographiques muets. Donc il fait des projections avec les quelques privilégiés de son bar de ces films. En même temps, il a un ami qui est un ancien membre de son groupe qui développe toute une théorie sur l'histoire universelle et le football qui est assez réjouissante. Donc c'est un peu un roman kaléidoscope, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires, il y a déjà deux histoires enchâssées, mais ces histoires ouvrent beaucoup de perspectives, et la plus, celle qui fait à mon avis l'intérêt principal du livre pour un public français, c'est que c'est vraiment c'est très riche d'enseignements sur une Europe de l'Est qu'on connaît finalement assez mal.
Ou alors par des écrivains qui sont déjà confirmés, tels Kundera, Harabal. C'est-à-dire pas la nouvelle génération, forcément, quoi.
Exactement. Et donc sur la transition d'une République tchèque communiste au régime post-soviétique et aux difficultés que ça implique, je pense que c'est un livre très intéressant.
Voilà, c'était Louis Dumoulin, éditeur chez Books Edition, au micro d'Anna Kubista. Comme nous vous l'annoncions en début d'émission, deux parties pour cette rubrique culture ce week-end. Donc la deuxième partie consacrée à l'actualité cinéma. Jeudi, c'est ouvert à Rouen et à Mont-Saint-Aignan en Normandie, la 7e édition du festival À l'Est du Nouveau, dédié au cinéma d'Europe centrale et orientale. Ce festival créé en France et au Pérou entend présenter la production récente et souvent inédite. En France, à l'affiche du festival figure des films d'animation tchèques, Le jardinier qui voulait être roi et L'atelier enchanté, La maison, un film tchécoslovaque ainsi qu'une section spéciale dédiée à Václav Havel. À Rouen, Magdalena Hrdinková a joint le fondateur et directeur du festival, David Duponchel. Il détaille notamment la particularité du film réalisé par Havel sur le départ. On l'écoute.
Disons que c'est un film, c'est un peu un film hors norme. Hein. Je suis pas sûr non plus que le fait que il y a beaucoup de public, ça signifie que ce soit un bon film. Et puis il y a des films qui sont éreintés à leur sortie et qui après trouvent... Peut-être que le film d'Havel va trouver son public d'ici 20, 30 ans. Enfin, on n'en sait rien. Moi, le théâtre filmé, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal, parce que j'ai plutôt une revendication du cinéma, plutôt ayant corps avec la vie, quoi, ayant une relation très très directe avec la vie. Le théâtre, là aussi, hein. Donc c'est une façon de travailler à lui, et je pense qu'en fait, C'est pour ça que j'ai fait venir aussi Katia Alla, qui va parler de son théâtre. Et peut-être que par rapport à son théâtre, on va pouvoir rentrer dans ce film beaucoup plus facilement. Vous voyez, c'est comme un peu, il y a des films qui sont qui sont fermés et dont parce qu'on n'a peut-être pas les clés, parce qu'on n'a pas vu, et donc je pense que on a besoin de quelqu'un pour nous ouvrir la porte. Voilà.
Est-ce que vous avez un coup de cœur dans la compétition du festival?
Un coup de cœur. Alors oui, moi j'ai vraiment en fait un film qui m'est resté, c'est La Maison, que j'ai trouvé vraiment au niveau de la thématique de ce combat un peu entre l'indépendance des enfants et ce père qui veut à tout prix que ses filles viennent habiter avec lui, qui a son idée fixe et qui peu à peu que la maladie et la vieillesse vont faire douter, vont faire vaciller. J'ai trouvé ça très très beau parce qu'il n'y a pas de fioritures, c'est très proche des acteurs et ouais, c'est un film qui m'a, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai sélectionné, c'est une petite fenêtre comme ça dans un monde un peu comment je peux dire, très un petit peu superficiel, et puis là tout d'un coup on rentre dans quelque chose de brut.
Et le festival a été créé en fait entre la France et le Pérou?
Oui, c'est ça, oui, en fait c'est que le festival, bah, on est une équipe complètement cosmopolite, c'est-à-dire que bon, bah, j'ai un ami Thomas Riochet qui fait en fait tout ce qui est la partie graphie un peu du festival, qui se trouve à Prague, et puis de l'autre côté voilà, le trailer du festival est fait au Pérou, la page web est faite aussi au Pérou, et puis donc il y a une interrelation, et après le festival se fait également au Pérou avec la même production. D'ailleurs cette année on va proposer avec la Fondation Telefonica à Lima un festival du film d'animation où la République tchèque sera très bien représentée avec quelque chose, un hommage à Terka, et également des films contemporains genre Alois Nebel, beaucoup 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 de courts-métrages aussi sur l'animation tchèque.
C'était le fondateur et le directeur du Festival de films d'Europe centrale et orientale en France, David Duponchel, qui est au micro de Magdalena Hrozinkova. Tout de suite, écoutons Guillaume Narguet dans sa rubrique « Le tchèque du bout de la langue ».
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Les fêtes de Pâques qui viennent d'être célébrées un peu partout dans le monde, comme celles de Noël, sont traditionnellement d'abord des fêtes de joie et de paix. En tchèque, il existe un mot qui résume très bien ce que sont ces périodes de fêtes, le mot
pokoj.
Un mot très intéressant car il possède deux sens, ne possédant a priori absolument aucun rapport entre eux. En effet, si
pokoj
signifie paix, tranquillité, repos, il peut également désigner une chambre, une pièce, une salle. Et pourtant, en menant quelques recherches, nous nous sommes aperçus que ces deux sens possédaient bien un rapport entre eux. Certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, exceptionnellement, ce n'est pas une chanson tchèque, mais slovaque que nous avons choisie pour nous accompagner tout au long de cette rubrique. Cette très belle chanson de Jana Kirchner s'intitule
Pokoj v duši,
soit paix dans l'âme ou paix de l'âme, dans le sens vivre en paix, dans la quiétude et le calme, plus précisément une paix de la conscience et de l'esprit qui nous permet de vivre dans la quiétude et le calme. ce
pokoj v duši
nous fait penser, car le fond s'en rapproche, à une autre locution que vous connaissez bien si vous nous lisez ou nous écoutez régulièrement, puisque nous avons pris l'habitude dans cette rubrique de prendre congé de vous, chers lecteurs et auditeurs, en vous souhaitant d'avoir
slunce v duši,
littéralement le soleil dans l'âme. Cette locution que nous avons traduite en français comme porter le soleil en vous signifie que le soleil brille en vous dans votre âme, qu'un soleil radieux illumine vos jours, votre vie quotidienne et réchauffe votre cœur et vos rêves. En République tchèque, cette locution
Slunce v duši
est passée dans le langage courant dans les années 1990 et 2000 grâce à son auteur Jan Zapokopchanik, un des plus célèbres et romantiques présentateurs du bulletin météo qu'est connue la télévision tchèque. En tchèque, il existe également une autre locution très courante avec le mot
pokoj,
possédant toutefois une connotation moins positive, quoique il s'agit de
dejme pokoj.
En français, fiche-moi la paix ou fous-moi la paix ou encore laisse-moi tranquille. Il s'agit donc de réclamer le calme, d'exiger, de faire silence, de ne pas nous déranger. Mais la même locution
dejme pokoj
peut également signifier donne-moi une chambre. À la réception d'un hôtel, un tchèque pourrait très bien demander une chambre en disant
dejte mi pokoj,
tout en y mettant bien entendu les formes avec un petit s'il vous plaît,
prosim,
pour que l'ordre passe un peu mieux quand même. On l'a donc compris, le mot
pokoj
peut donc désigner un état de paix intérieure, de tranquillité, de calme et de quiétude, mais aussi une chambre, la pièce où l'on couche, ou encore une pièce d'une maison ou d'un appartement. On pense ici notamment au salon ou à la salle de séjour.
Obývací pokoj.
Mais intéressons-nous tout d'abord à l'origine du premier sens, le sens fondamental, originel du mot
pokoj.
D'abord, première constatation, il ne s'agit pas d'un mot d'origine tchèque, mais d'un mot que l'on retrouve dans d'autres langues slaves, avec
pokoj,
bien sûr, en slovaque, mais aussi en serbo-croate et en polonais, ou
pokoj
en russe. Tous proviennent du vieux slave
pokoj,
qui signifiait déjà calme, repos. Ici, il est toutefois intéressant de remarquer que si le mot
pokoj
désigne la paix, c'est uniquement dans le sens de calme et de quiétude. Pour la paix, dans le sens d'absence de conflit, de violence, pour l'antonyme de guerre, il existe alors le mot
mir,
là aussi en tchèque comme dans bien d'autres langues slaves. Seul le polonais semble faire exception, le mot
pokoj
étant utilisé dans les deux sens. Une fois tout cela dit, nous pourrions être tentés de vouloir mourir en paix.
Zemřít v pokoji.
Ce serait toutefois oublier le deuxième sens du mot
pokoj,
celui donc de chambre, de pièce comme lieu de vie et d'habitation. Ce second sens est apparu plus tard. On le sait, autrefois, et pendant longtemps, jusqu'à relativement récemment, même en Europe, les gens ont habité et vécu ensemble dans une seule et même pièce. Dans cette pièce, la famille, souvent des grands-parents jusqu'aux petits-enfants, cuisinaient, mangeaient et dormaient. Pour différentes raisons, essentiellement pratiques, ces conditions, qui nous apparaissent aujourd'hui modestes, leur suffisaient. Et ce n'est donc que plus tard que les gens, et d'abord dans les villes, ont commencé à ressentir le besoin de disposer d'une pièce supplémentaire afin de pouvoir s'y reposer, une pièce dans laquelle ils pourraient passer du temps sans être dérangés. Autrement dit, une pièce dans laquelle ils profiteraient du calme, où ils auraient la paix.
Kde by měli pokoj?
Et c'est ainsi que cette pièce destinée au repos, au calme et à la paix est devenue
pokoj.
V cizím pokoji, zdá se, že tu pro mě končí jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám, jsem jak vagon, když ho odpojí.
Et c'est avec un extrait de la chanson de Petr Hapka intitulée
S cizí ženou v cizím pokoji,
avec une femme inconnue dans une chambre inconnue, que s'achève ce tchèque du bout de la langue, une femme inconnue dans une chambre inconnue qui ne nous empêche cependant pas d'avoir la paix dans l'âme,
pokoj v duši,
ou si vous préférez, l'âme en paix, et nous aide à porter le soleil en nous.
Slunce v duši.
Portez-vous donc du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Thank you.
Bien qu'il ait vécu pendant la moitié de sa vie au Canada, Josef Škvoretský est resté avant tout un écrivain tchèque et sa popularité en République tchèque ne se démentit pas, même après sa disparition. Les 11 et 12 avril, Prague a rendu hommage à cet auteur original, passionnant et prolifique. Les organisateurs de cette manifestation n'ont pas oublié non plus la femme de Josef Škvoretský, Zdena Salievarová, sa collaboratrice et inspiratrice. Plus de détails avec Václav Richter.
Rencontre littéraire. C'est pour rendre hommage à Josef Škvoretský, figure importante de la littérature tchèque de la seconde moitié du XXe siècle, qu'a été organisée au lycée pragois qui porte le nom de cet écrivain, une lecture non-stop de ses œuvres. Pendant 24 heures, du 11 au 12 avril, des personnalités de la littérature et de la vie culturelle, mais aussi des étudiants du lycée, ont lu sans interruption des extraits des textes de Josef Škvoretský qu'ils avaient choisis. Parmi eux figurait l'écrivaine Iva Pekárková qui, après la lecture, a partagé avec Radio Prague quelques souvenirs et réflexions sur cet écrivain qui a joué un rôle décisif au début de sa carrière littéraire. Václav Krištof, fondateur du lycée Josef Škvoretský, initiateur de la lecture non-stop, voulait d'abord organiser cette manifestation pour rappeler les activités de la maison d'édition 68 Publishers. La maison créée au Canada par Josef Škvoretský et sa femme Zdena Salibarová en 1971 a publié en l'espace d'un peu de 20 ans 227 œuvres d'auteurs tchèques et slovaques souvent en exil ou interdits de publication dans leur pays. Le projet initié par Václav Krištof a été cependant remanié après la disparition de Josef Škvoretský, mort le 3 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Les organisateurs de la lecture ont décidé de concevoir celle-ci comme un hommage à l'écrivain disparu. Václav Krištof voulait situer la lecture dans les locaux du lycée pour plusieurs raisons.
Nous avons choisi cet endroit parce que Josef Škvoretský et Zdena Salivarová ont maintes fois visité le lycée. Ils ont participé à des débats et y ont lu leurs textes. C'est donc un des endroits de Prague très marqué par la présence des deux auteurs. Les auteurs que nous avons invités à prendre part à la lecture ont majoritairement réagi très positivement. C'était entre autres Jiří Dědeček, Jiří Novák, Iva Procházková, Ivan Klima, Ludvík Vaculík ou Petr Král. Certains auteurs qui se trouvaient à l'étranger, comme Ota Philippe et Ota Ulch, nous ont envoyé des textes de salutation. D'autres n'ont pas pu venir, faute de temps. Mais je pense que les noms que j'ai cités sont assez représentatifs.
Parmi les participants à la lecture figurait donc aussi Iva Pekárková, prosatrice, journaliste et traductrice tchèque. Née en 1963 à Prague, Iva Pekárková s'est exilée en 1983 pour s'établir aux États-Unis. En 1997, soit 8 ans après la chute du communisme, elle est revenue à Prague et a travaillé pendant quelque temps à la rédaction du journal Mladá fronta Dnes. Aujourd'hui, Iva Pekárková vit à Londres et poursuit son œuvre littéraire. Elle est l'auteur de nombreuses œuvres souvent d'inspiration autobiographique qui lui permettent d'exploiter les riches expériences de sa vie. C'est grâce à Josef Škvoretský qu'Iva Pekárková a cessé d'hésiter et s'est lancée dans la littérature.
Josef Škvorecký jako člověk pro mě především znamená úplný totální.
Josef Škvorecký représente pour moi le début absolu de ma carrière littéraire. Quand j'ai écrit mon premier livre, je l'ai envoyé insolemment depuis Boston, où je vivais alors, à Josef Škvorecký au Canada. Il m'a énormément aidé parce qu'il a publié ce livre et m'a beaucoup encouragé. Il m'a ainsi convaincu que cela valait la peine d'écrire, que cela valait la peine d'essayer. Il était pour moi une légende. Škvorecký, Kundera et peut-être aussi encore Miloslav Švandarlík, avec son roman Les Barons Noirs, étaient les auteurs que nous lisions. D'autres livres intéressants n'étaient pas normalement disponibles, et même les livres de ces auteurs-là ne circulaient qu'en cachette. On se les passait de main en main parce qu'on avait peur qu'ils soient volés et parce que, de toute façon, ils étaient interdits.
Tak jako tiše, aby to pokud možno nikdo nevěděl, že by je ukradl a byly zakázané, pochopitelně.
Josef Škvorecký était pour Iva Pekárková aussi une personnification, l'essence même des années 1960, période de dégel politique et de grand essor culturel en Tchécoslovaquie. Née en 1963, elle était encore trop petite pour comprendre le caractère exceptionnel de cette période, mais elle en a quand même été profondément marquée. Le premier livre de Josef Škvorecký qu'elle a lu a été « Les Lâches », un roman paru en grand tirage en Tchécoslovaquie et qui, en tant que tel, pouvait donc être acheté dans les librairies, mais qui manquait souvent dans les bibliothèques publiques. Quand Iva Pekárková est arrivée aux États-Unis, la situation a changé. Le livre de Škvorecký et d'autres auteurs tchèques et slovaques introuvables en Tchécoslovaquie étaient disponibles. Elle a alors lu tous les textes de Škvorecký qu'elle a trouvés. L'auteur des Lâches était pour Iva Pekárková aussi un modèle pour sa propre création littéraire.
Určitě, já si myslím, že když člověk jaksi je mladý, tak pochopitelně prostě.
Certainement, je pense que quand nous sommes jeunes, nous profitons de nos auteurs préférés pour apprendre à écrire. Je ne pense pas écrire comme Škvorecký, ce serait trop flatteur pour moi, mais il était pour moi quand même un grand exemple littéraire. Cela ne veut cependant pas dire que j'ai essayé de l'imiter. J'avoue que son roman Scherzo Capriccioso sur la vie du compositeur Antonín Dvořák est celui que j'ai le plus aimé. Je n'ai pas un grand talent pour la musique, mais le langage de ce livre était tellement musical et tout y était décrit de façon si splendide que même moi, qui n'ai pas l'oreille musicale, j'entendais les mélodies de Dvořák et d'autres compositeurs en lisant ce livre. Et c'est grâce à cette lecture, à l'art de la langue de Josef Škvorecký et à son enthousiasme pour ce thème que j'ai appris sans aucun effort énormément de choses sur la musique. Scherzo Capriccioso est donc le livre que j'admire probablement le plus.
Selon Iva Pekárková, tout le monde souligne l'importance du travail que Josef Škvorecký a fait pour la littérature tchèque avec sa femme Zdena Salivarová à la maison d'édition 68 Publishers. Iva Pekárková estime cependant que l'importance de Josef Škvorecký, écrivain, dépasse celle de Škvorecký, éditeur.
Bylo úžasné to, že obětoval z valné části teda svou kariéru a vlastně paní Zdena.
Bien sûr, c'était admirable qu'il ait sacrifié une grande partie de sa carrière littéraire et que Zdena Salivarová l'ait sacrifié presque entièrement pour pouvoir éditer les livres des autres. Mais en même temps, Josef Škvorecký revêt pour moi une grande importance en tant qu'auteur. Il était un des grands écrivains de son époque et son époque a été très longue.
Své doby, která byla velmi dlouhá doba.
C'est donc par cette rencontre littéraire présentée par Václav Richter que s'achève cette émission préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée ce week-end par Paul Bauer. Demain, vous retrouverez une rediffusion du magazine musical présenté par Anna Kubishta, consacré au violoncelliste Jerzy Barta. Vous pouvez bien sûr lire et écouter tous nos programmes sur Internet à l'adresse suivante www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante cr@radio.cz. Bonne fin de week-end. Au revoir, Naslishano.